Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve Patrick Cohen avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Avec Michel Meyer, auteur, avec François Desnoyers de Mur de Berlin, Le Monde d'après chez Larousse, et Michel Fine qui raconte dans un document qui sera diffusé ce soir l'histoire de la plus grande taupe de la guerre froide, Farewell, surnom donné par les services français à un agent du KGB, Vladimir Vetrov, qui avait été en poste à Paris et qui, à partir de 1980, fournit à la DST des centaines, des milliers de documents ultra secrets sur les réseaux soviétiques déployés en Occident. Et il ne le fait pas pour l'argent. Hein.
A priori, il ne le fait pas pour l'argent. Il le fait d'abord parce qu'il veut éviter une guerre entre l'URSS et les États-Unis. Il y a un vrai climat de guerre à l'époque. Hein, il a peur. Et puis, il le fait surtout par vengeance. Parce que Vetrov...
Il est au placard.
Il a été en poste à Paris où il a adoré la vie parisienne. Il a été en poste au Canada. Au Canada, il a eu un petit souci. Il a failli être recruté par les services canadiens. Le KGB l'a appris, parce que le KGB avait infiltré les services canadiens, et l'a rapatrié à Moscou. Et à Moscou, on l'a mis au placard, dans un service qui n'était pas pour lui très intéressant, qui était la direction T, qui concentrait, centralisait tous les renseignements scientifiques et technologiques que le KGB avait volés à l'étranger depuis des dizaines d'années.
Alors c'est une mine considérable, et ce que les services français puis les Américains découvrent, c'est l'ampleur du pillage technologique et industriel auquel se livrent les Soviétiques depuis des années.
Depuis des années, ils ont tout volé. Ils ont tout piqué. Ils ont piqué les plans des sous-marins nucléaires, les plans des centrales atomiques, les plans des avions. C'est absolument considérable.
Des navettes spatiales aussi.
Des navettes spatiales. Et 70% de ce qu'ils ont volé, ils l'ont volé dans des entreprises américaines, sur le sol américain ou sur le sol indien, etc. Donc ils ont tout volé. Les Américains sont absolument stupéfaits de se rendre compte de ça. Ça leur a permis d'économiser des milliards et des milliards de dollars. Et le pire, c'est qu'ils avaient des savants, les Soviétiques, qui étaient de bons savants. Mais les savants étaient dégoûtés parce que quand eux proposaient des avancées, on leur disait non, mais on a trouvé ça à l'Ouest, c'est beaucoup plus important. Donc on faisait passer les secrets piqués à l'Ouest avant les secrets...
Des Américains informés en direct par François Mitterrand, qui vient d'accéder au pouvoir lors d'un sommet à Ottawa. Il le dit à Reagan, et ça lui permet de montrer à Reagan que malgré ses ministres communistes, bah voyez, je ne suis pas un féodé à Moscou. Et un pacte industriel, alors ça c'est une partie absolument passionnante, c'est que les Américains mettent au point un programme d'intox et de sabotage de la technologie soviétique. Expliquez-nous, Michel Fine.
Reagan va faire créer une petite équipe au sein du Conseil de sécurité américain. Et dans cette petite équipe, il y a un type qui ne connaît pas du tout le monde du renseignement, qui est spécialisé en économie, qui s'appelle Gus Weiss. Gus Weiss, c'est un génie, c'est un fou, il est mort depuis. Et Gus Weiss va avoir cette idée folle, il va dire « Ah bon, ils nous pillent ? Eh bien, très bien. Eh bien, les secrets qu'ils veulent nous voler, on va les leur donner. Mais avant... on va les caviarder, ces secrets-là. On va leur donner des secrets faussés. Donc, ils vont leur balancer des logiciels avec des chevaux de Troie à l'intérieur. Ils vont leur donner des plans complètement faussés. Et
ça aboutit à l'explosion d'un gazoduc sibérien, parce qu'il leur manque, c'est pas les bonnes côtes quoi pour les pièces. Donc forcément ça s'ajuste pas, c'est trop grand, trop petit, etc. Ou ça déraille, ça se détraque comme ça, un gazoduc qui explose à cause de l'intox américaine.
Alors il y a pas eu que le gazoduc, hein, il y a eu tout un tas d'explosions à l'époque un peu bizarres, de dépôts de munitions. L'année 83 est riche en explosions dont on ne saura peut-être jamais si elles ont été le fait des Américains ou pas. Enfin bon.
Farewell, Vetrov arrête tout en janvier 82, après 14 mois de double jeu. Il est arrêté dans des circonstances troubles, il tue un homme, tente de tuer sa maîtresse. Mais on ne sait pas si c'est un fait divers, ou s'il a été démasqué, ou vous pensez que c'est un fait divers, Michel Fine.
C'est très difficile de penser quelque chose dans ce monde du renseignement qui est une espèce de poker menteur où certains vous donnent une version et d'autres vous soutiennent la version absolument inverse. La version des soviétiques, c'est que Vetrov avait une maîtresse qui était la traductrice de son service.
Elle travaille au KGB.
C'est elle qui lui donne la plupart des documents d'ailleurs, parce qu'elle est traductrice. Et a-t-elle été au courant de ce que faisait Vetrov ou pas ? Officiellement, on ne sait pas. Toujours est-il qu'un soir, il veut quitter sa maîtresse. Et avant de la quitter, il l'invite à boire une coupe de champagne dans sa voiture, un soir sur un parking. Et tout d'un coup, Que se sont-ils dit? On ne sait pas. Tout d'un coup, il s'énerve, il essaie de la tuer, il lui tape sur la tête avec la bouteille de champagne. Et là, il y a un type, un policier, un milicien qui arrive, qui entend du bruit, qui frappe à la porte. Et Vetrov va tuer le milicien. Ludmila, la maîtresse, va survivre, elle va s'enfuir et elle va aller dire à la police, il a essayé de me tuer. Et là, Vetrov va être arrêté. Donc, officiellement à ce stade, c'est un fait divers.
Puis déporté au goulag, où là, il sera vraiment démasqué, il sera fusillé en janvier 85, à 54 ans. Michel Meyer, votre regard là-dessus, il a réellement affaibli, et peut-être plus que ça, Vetrov, la puissance soviétique?
Je pense que effectivement le pillage était énorme, et dans ce pillage, il y avait même, j'avais envie de le dire en surplus tout à l'heure, il piquait même les micro-switches des jouets d'enfants, hein, de Noël ou de Pâques.
Les plans des machines à
laver. Par exemple. Mais l'usage qu'ils auraient pu en faire était moindre dans la mesure où ils piquaient de façon indifférenciée, et s'il n'y a pas une stratégie systémique au niveau d'un pays et au niveau d'un plan technologique, le profit de ce genre de piquage, ça ne vaut pas grand-chose. Alors que les Américains, eux, étaient convaincus en constatant qu'ils avaient fait du vrac et qu'ils manquaient de discernement, que c'était exploitable. Et la machine de guerre américaine, en termes technologiques, déjà numérique à l'époque, a fait que la différence était déjà faite. Je pense. Et le profit peut être moindre. Voilà.
Michel Meyer, Mur de Berlin, Le Monde d'après, avec François Desnoyers chez Larousse. Et Michel Fine, Farewell, l'espion qui aimait la France, diffusé à 22h35 sur France 5, est déjà disponible sur France.tv avec tous les témoins vivants, y compris celui qui a été l'officier traitant le français de Vetrov.
Patrick Ferrand.
Qui parle.
L'excellent Patrick Ferrand.
Qui parle pour l'une des premières fois. Merci beaucoup, Michel Fine. Merci, Michel Meyer.